demander est-ce que c'est un gouvernement conservateur ou libéral. Puis jusqu'à maintenant, là, ceux qui dominent au 418-971-1021 pour ce qui est des prédictions, ce serait libéral minoritaire. Est-ce que tu y crois?
Qui aurait cru en janvier dernier, alors que Pierre Poilievre se dirigeait vers un gouvernement conservateur majoritaire? Là, les libéraux, du moins de leur côté, me disent qu'ils y croient. Moi, je suis de ceux qui pensent que les libéraux vont être majoritaires à la fin de la soirée électorale. Et encore une fois, un petit coup de pouce de Donald Trump qui est allé d'une autre de ses déclarations incendiaires aujourd'hui, un peu plus tôt, avec un tweet dans lequel il ne reconnaît pas la frontière. Il invite les Canadiens à voter pour le candidat qui pourrait diminuer les impôts au maximum. Et bien entendu, ben, ce candidat-là, c'est lui. M. Trump a comme pas compris que personne au Canada ne veut devenir le 51e État ou presque. Donc, ce sera une soirée super intéressante. Il reste encore du temps devant nous. Les gens peuvent aller voter jusqu'à 21h30 ce soir. Et peu importe qui on choisit d'appuyer, c'est important d'y aller. On le dira pas assez aujourd'hui. On a eu un taux de participation record au vote par anticipation avec plus de 25% des Canadiens inscrits qui ont déjà voté, à peu près 7 millions de Canadiens qui ont voté. C'est important d'y aller aujourd'hui, de prendre le temps. D'ailleurs, si votre employeur est dans l'obligation aussi de vous donner une période de 3 heures pour aller voter. Donc, on n'a pas d'excuse pour pas y aller.
Exact. Parmi les bons coups qui ont été faits dans les dernières semaines, là, qui remporte la palme dans ces coups-là? Est-ce que c'est les conservateurs ou c'est vraiment les libéraux? Puis quels sont ces coups-là?
Bon, le lance-moi pas de tomate, OK? Parce que le meilleur coup de la campagne, je le donne à Justin Trudeau.
Ah, ben je pensais que tu allais dire Jack Meat. J'étais là, voyons.
Là, on était déphasés.
Qu'est-ce que c'est ça?
Ça veut dire de rien faire, peut-être, là.
Non, je le donne à Justin Trudeau parce que, je sais pas là si vous en souvenez, mais on en a déjà parlé ensemble. Justin Trudeau qui est parti trop tard, qui a fait traîner, à un moment donné, tout ce qui traîne se salit, puis il est parti un peu trop tard. Force est de constater, quand on regarde ça aujourd'hui, qu'on regarde en arrière un peu dans notre rétroviseur, bien que Justin Trudeau, pour le Parti libéral du Canada, est parti juste au bon moment. Il est parti alors juste au bon moment pour que Mark Carney s'installe en tête, que ça, les Canadiens apprennent pas trop à le connaître pour être désenchantés. Les libéraux, depuis la démission de Justin Trudeau, ont comme gardé cette aura-là autour du CV et du personnage de Mark Carney, qui le mène aujourd'hui à être dans la position de favori à l'aube, le jour du vote. Donc, pour moi, le meilleur coup de la campagne, j'ai pas le choix de le donner à Justin Trudeau parce que j'ai pas trouvé que les libéraux ont fait tant une belle campagne que ça de façon générale. C'était très prudent. On y allait le plus plate possible. Et même quand on était plate, on était capable de s'auto-pelure, de bananiser tout seul.
OK, avec plot juste... twist, tout ce qui a été reproché à Justin Trudeau de tenir les rênes, de s'accrocher quand il faut pas, de pas quitter le bateau, attends, maintenant, avec un pas de recul, tu trouves qu'il a servi au parti?
À son parti, absolument. Aux Canadiens, peut-être une autre histoire, mais à son parti, si Justin Trudeau avait démissionné en septembre, on aurait eu le Parti libéral du Canada aurait eu une toute autre course à la chefferie. Peut-être qu'un François-Philippe Champagne aurait décidé d'y aller,
oui.
Qu'une Mélanie Joly aurait décidé d'y aller. Donald Trump aurait pas encore gagné, la présidence. Donc, Mark Carney aurait peut-être pas eu le même appel auprès des militants. Et là, ben, ça aurait été complètement différent. Alors que de démissionner comme ça en janvier, à la veille de la tempête, comme Yannick aime l'appeler, du Grand Orange de l'autre côté, ça fait en sorte que ça a créé la tempête parfaite pour que Mark Carney s'installe en tête des intentions de vote et fasse une campagne comme on n'a jamais vu. Là. Tous les sondeurs le disent, une campagne aussi rectiligne que ça, où les intentions de vote restent à peu près de la même du début à la fin. J'ai jamais vu ça, moi.
Qu'est-ce qui fait que les mauvaises nouvelles qui touchent Mark Carney, ses anciennes entreprises et tout ça, d'ailleurs, on a appris dans les dernières heures qu'il y a une de ses anciennes entreprises qui aurait fait de l'évitement fiscal, puis cette entreprise-là décide de poursuivre le gouvernement, donc l'Agence de revenus du Canada. Qu'est-ce qui fait que ces nouvelles-là collent pas à Mark Carney, C'est-tu parce que Pierre Poilievre semble être très détesté? Donc, les gens qui sont peut-être un peu plus à gauche détestent carrément Pierre Poilievre, puis ils acceptent d'y aller avec un gars qui vient d'arriver, qu'on connaît pas nécessairement, qui a de l'air d'avoir un beau CV, mais quand tu creuses un peu, on se rend compte que le CV n'est pas si reluisant que ça. Pourquoi les nouvelles négatives à l'égard de Carney passent pas? Il y a des gens qui détestent Pierre Poilievre?
Je pense que la réponse à ça, c'est oui. Et M. Poilievre a eu de la misère à s'orienter différemment, à faire le pivot qu'il avait besoin de faire. Il nous a montré dans les deux dernières années que c'est un excellent chef de l'opposition. Ce qu'il n'a pas été capable de faire dans cette campagne-là, c'est de nous montrer qu'il était capable d'être un bon premier ministre. Et être un bon premier ministre, c'est aussi être le chef d'une équipe, une équipe que M. Poilievre nous a jamais présentée. Aujourd'hui, là, M. Poilievre doit se mordre les doigts d'avoir fermé la porte à Éric Girard, le ministre des Finances du Québec. M. Poilievre a aussi fermé la porte à l'ancien ministre des Finances de la Colombie-Britannique, M. Mike De Jong. Mike De Jong, lui, il n'a pas fait comme Éric Girard. Il a dit « Ah ouais, pas grave, je vais y aller pareil, je me présente comme indépendant ». Et aujourd'hui, en Colombie-Britannique, M. De Jong a des chances de l'emporter comme indépendant devant le candidat conservateur. Donc, il y a eu des erreurs de logistique, de stratégique de campagne, et il y a aussi eu des erreurs d'attitude, moi, je trouve. Aujourd'hui, là, d'avoir craché au visage d'à peu près tout ce qui bougeait en politique canadienne, maire, mairesse, premier ministre provinciaux, chef de parti, Jack Meeting, Yves-François Blanchet, ça aurait été une des plus grosses erreurs de Pierre Poilievre. Parce que il y aurait besoin, M. Poilievre, aujourd'hui, que M. Singh soit en meilleure posture face aux libéraux, et que M. Blanchet soit un petit peu plus fort qu'il l'est au Québec pour espérer remporter ce soir.
Puis, est-ce que, advenant une défaite de Pierre Poilievre, là, parce que j'imagine qu'il y aura énormément de gens qui vont voter pour lui, est-ce qu'il va réussir à faire élire le nombre de députés qu'on pensait qu'il allait réussir à faire élire? On pense pas, mais est-ce qu'il resterait en place dans l'opposition ou le Parti conservateur va commencer à se poser des questions, à savoir si c'est peut-être lui l'élu ou si ça ne l'est pas?
C'est sûr qu'il va avoir une grande remise en question. Tout va commencer à savoir s'il garde sa circonscription. M. Poilievre, ça fait 20 ans qu'il est député de la circonscription de Carleton dans la région d'Ottawa. Une circonscription dans laquelle il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont menacés par la plateforme et le cadre financier de M. Poilievre. Donc, c'est une chose de voter pour l'homme qui nous a représentés dans les 20 dernières années. C'est une autre de voter pour le chef du parti qui promet d'abolir votre job. Donc là, on entend de plus en plus que M. Poilievre pourrait être en danger dans sa circonscription. Ce serait pas la première fois qu'un chef de parti qui échappe à une élection perd aussi sa circonscription. Dans ce cas-là, M. Poilievre pourrait pas rester. Si jamais M. Poilievre faisait bonne figure, mais en fait, il n'y a pas de façon de faire bonne figure après avoir échappé une avance de 25%, de 25 points.
Il faudrait qu'il démissionne.
Je suis dans cette circonscription-là. Là, je suis sur le site de 338 Canada. Puis faut dire que dans ce secteur-là, ils ont tenté de mettre la vie dure à Pierre Poilievre. Il y a au-dessus de 90 candidats, ce qui est très drôle. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a 99% des chances de passer, là, Pierre Poilievre.
Oui. Mais dans les dernières semaines, on a vu des stratèges conservateurs du Parti conservateur de l'Ontario. Tu vas me dire, Doug Ford, M. Poilievre ne sont pas des grands amis, mais quand même des stratèges conservateurs donnés aux médias comme le Toronto Star et le Globe and Mail, des sondages internes au Parti conservateur qui indiquent que à Ottawa, dans la région d'Ottawa, donc pas juste à Carleton, mais dans la région d'Ottawa dans son ensemble, les libéraux ont presque 20 points d'avance sur les conservateurs et les sondages internes des libéraux placent les libéraux à un point d'écart de M. Poilievre. Donc, il y a une grosse mobilisation et un bon indice pour dire que la soupe est chaude dans la circonscription de M. Poilievre, c'est le fait que le Parti conservateur envoie du personnel politique dans la circonscription du chef. Ça, c'est un des plus grands indices pour dire, OK, on commence à sentir la soupe chaude un peu. On va envoyer du personnel qui, normalement, serait envoyé dans des circonscriptions où la lutte est serrée, comme à Trois-Rivières, par exemple, ou comme dans la région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On sait qu'à Jonquière, là, les conservateurs se rapprochent un peu de Mario Simard. Bon, je pense que Mario Simard va garder sa circonscription, mais on pourrait venir envoyer des renforts dans cette circonscription-là. C'est pas ce qu'on fait. On a choisi d'aller aider le chef. Donc ça, c'est pas de très bon augure pour le chef conservateur. Après ça, moi, je pense qu'il va garder sa circonscription.
Ouais. Hein. Jérémy Guillaume, tu sais que je suis un conspirationniste parfois. La mauvaise campagne de Jack Meeting, là, c'est à se demander s'il n'y avait pas une entente encore avec les libéraux.
Mais, tu vois, moi, j'ai pas trouvé M. Singh si mauvais que ça.
Il était mauvais, mauvais. Puis il réussira pas à faire élire autant de députés qu'il pensait. Là.
Non, j'ai l'impression... M. Singh, là, c'est un gars qui est super sympathique. Il passe bien en entrevue, il répond, il est présent, il dit oui, il va être winning. J'ai un peu l'impression que c'est un relent de politicien à la Justin Trudeau, là. Tu sais, ce genre de politicien qu'on est capable de mettre dans une foule, qui va t'animer une foule, avec qui tu vas avoir envie de manger une poutine puis prendre une bière, mais que tu n'auras pas envie de confier ton portefeuille. Et c'est un peu ça qui fait mal à Jack Meeting. Et dans une perspective où la question de l'urne, c'est qui est le mieux placé pour faire face à Donald Trump, ben à ce moment-là, il n'y a pas une âme vivante au Canada qui pense que Jack Meeting va faire face à Donald Trump. La même chose pour Yves-François Blanchet. Yves-François Blanchet a mieux joué ses cartes que M. Singh pendant la campagne. D'ailleurs, ce qui va expliquer qu'il va sauver un peu les meubles du Bloc québécois. Mais de ce côté-là, M. Singh s'est fait complètement discarter par son propre électorat. Ouais. Et ça vient peut-être du fait qu'il a signé l'entente à la base. L'entente avec les libéraux, là, il a aussi dit à ses électeurs, c'est correct de faire des deals avec les libéraux. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de néo-démocrates pendant cette élection-ci qui vont dire, parfait, je vais faire un deal de 4 ans avec les libéraux, je vais voter libéral, je reviendrai au NPD après.
Parce que quand on écoutait le débat en français, c'était épouvantable à quel point il s'attaquait pas à Carney puis il coupait constamment la parole quand c'était les autres qui parlaient, alors que s'il pouvait gruger quelque part, Jack Meeting, c'est vraiment du côté des libéraux. Puis là, ben, par ce débat-là, il m'a comme démontré que lui, que les libéraux passent, ça ferait pas mal plus son affaire que si c'était le méchant Poilièvre l'autre côté.
Puis, mais le débat M. Carney n'a jamais insulté M. Singh en même temps, Yannick. Le débat M. Carney n'a jamais traité M. Singh de vendu comme Pierre Poilievre l'a déjà fait. C'est viscéral, la haine de M. Singh envers Pierre Poilievre.
Oui, mais si tu veux gagner, tu y vas stratégique, là?
Oui. Ben, des fois, l'émotion en prend le dessus. Je sais pas quoi te dire de plus à ce niveau-là, mais M. Singh n'aime pas Pierre Poilievre. Ça l'a paru dans les débats. C'était le seul qui n'avait pas eu le mémo que la cible était rouge. Lui, sa cible était bleue.
Oui, ben c'est ça. Ben, c'est là où je dis, y a-tu encore une entente pour laisser passer les libéraux puis même perdre des plumes? T'sais? Parce que oui, Jack Meeting va perdre des plumes puis probablement qu'ils vont devoir se choisir un prochain chef dans les prochains mois.
Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, Jérémy. C'est ça qui m'intéresse, Jérémy. L'avenir, le visage du Canada dans les partis que l'on connaît actuellement avec les chefs de parti pourrait changer malgré tout après l'élection, peu importe qui sera élu. Tu vois ça comment, toi, pour la suite des choses? C'est quoi tes hypothèses là, pour la chefferie de chacun des partis?
Bien, moi, les choses que je vais regarder de très, très près ce soir, la Colombie-Britannique en fait partie, et il y a deux chefs qui certainement ne seront probablement pas de retour dans le paysage de la politique canadienne. Et c'est Elizabeth May. Saanich Gulf Island est en danger pour le Parti vert, devrait, si les prédictions sont bonnes, changer du côté libéral. Et le comté de M. Singh, Burnaby Centre, c'est un comté qui, pour l'instant, a tendance à se transformer en rouge pour le moment. Donc, si les deux chefs, si la chef des Verts et le chef du NPD ne sont pas élus, ça va être très, très difficile de rester. Ben,
les odds,
le point d'interrogation, c'est Pierre Poilievre.
Les odds sont à 60... Dans le comté de Jack Meat, là, c'est 75% libéral, 22% parti conservateur, puis 3% NPD.
Mais même son parti, le NPD, doit se dire « peut-être qu'on aura besoin d'un nouveau visage, là, parce qu'il va mourir, le parti, là, comme si ça continue comme ça. »
Moi, je pense pas que le NPD va mourir. Hey. On disait il y a certaines années que le Parti libéral du Canada allait mourir.
On a dit ça pour le Bloc. Ouais.
On a dit ça pour le Bloc.
Mais j'ai l'impression que le Bloc est plus ancré dans sa mission. Le Bloc est plus ancré dans sa mission. Après, le Parti libéral est tellement vieux, tellement puissant malgré tout. C'est une machine de guerre politique. Le NPD, peut-être que l'angle mort, ce serait tout ce qui concerne l'immigration.
Au niveau du NPD, moi, je pense que la voix des travailleurs, c'est à ça qu'il faut revenir du côté du NPD. Les gains qui se sont faits au milieu syndical, les syndicats n'appuient même pas M. Singh en ce moment, là. Donc, ça donne une idée à quel point ça n'a pas bien été de ce côté-là. Mais il va avoir bien sûr un travail de reconstruction globale au niveau du parti à faire après ça. Mais de là à dire que le parti va mourir, c'est comme le Parti québécois à une certaine époque, il était que trois à l'Assemblée nationale. On disait que c'était la fin du PQ. Aujourd'hui, on parle d'un gouvernement en attente. Donc, c'est des cycles électoraux. Le NPD a continué sa descente aux enfers après avoir manqué sa chance de gouverner dans l'élection de 2015 où ils ont commencé l'élection. Ils étaient en avance dans les sondages. M. Mulcair, ça s'est pas traduit dans les intentions de vote par la suite. On connaît le résultat où Justin Trudeau a remporté contre toute attente. Mais c'est des cycles normaux dans la vie d'un parti politique de se chercher un peu, de perdre de sa pertinence pour la retrouver par la suite. Donc, je suis assez confiant que le NPD va trouver une façon de porter un message de travailleurs dans les prochaines années, mais ils vont devoir se réinventer. Ça, c'est sûr et certain.
Puis le Bloc, ça va ressembler à quoi ce soir?
Le Bloc québécois, moi, je pense que là, M. Trump vient de leur nuire un petit peu. M. Blanchet a quand même sauvé les meubles. J'ai aimé ça, moi, sa stratégie de dire « M. Carney, c'est fait, il va gagner. Pierre Poilievre, il ne sera pas premier ministre. Vous pouvez rentrer au bercail. » En ce moment, on n'est plus dans le scénario où le Bloc perdait la moitié de son caucus et se retrouvait avec une députation d'à peu près 16-17 députés. On est plus dans un scénario où le Bloc va l'emporter avec 25-26 députés. C'est quand même moins que ce qu'ils ont présentement, mais c'est pas la débandade qu'on avait prévue au début de la campagne. M. Blanchet est resté calme. Il va peut-être perdre des comtés, hein? Notamment dans la circonscription, dans le coin de Québec.
Québec, ouais.
Beauport-Limoilou, là, ça pourrait aller du côté conservateur. Mais et dans la Montérégie et la rive nord de Montréal aussi, ça pourrait être des comtés qui transfèrent du côté du Bloc québécois aux libéraux. Moi, je vais surveiller de très, très près aujourd'hui Thérèse de Blainville, La Prairie et Trois-Rivières. C'est trois circonscriptions que si les libéraux l'emportent, on pourrait s'attendre à une vague rouge aujourd'hui sur l'ensemble du Canada.
La dame s'appelle Thérèse de Blainville?
L'endroit,
ça s'appelle Thérèse.
La circonscription, c'est ça qui est drôle. Là.
Je pensais Thérèse de Blainville. Non, mon Dieu, que son secondaire a dû être difficile.
Non, elle pose des questions lors des débats des chefs à TVA.
Thérèse de Blainville, c'est une circonscription électorale qui est située sur la rive nord de Montréal. Justin Trudeau l'avait emporté en 2015, mais le parti l'avait échappé par la suite en 2019 et en 2021. C'est le genre de circonscription dans les banlieues de Montréal que si on voit redevenir rouge, c'est un indicateur qu'il y a plusieurs autres circonscriptions qui pourraient devenir rouges. Si Thérèse de Blainville vire au rouge, on pourrait voir quelque chose comme La Prairie virer au rouge, Montarville, même Trois-Rivières qui pourraient passer du côté rouge. Donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que les libéraux ont environ une dizaine de circonscriptions de plus au Québec. Et là, ça les met en chemin vers une majorité.
Ça m'importe peu pour qui vous allez voter, mais au moins, allez voter, allez exercer votre droit de vote, les amis. Merci, Jérémy Guillaume.
Bien, ça fait plaisir. Bon vote, puis bonne journée électorale.
À toi aussi.
Ben là, je suis tout mêlé, là. Je ne sais plus pour qui voter après t'avoir parlé.
Thérèse.
Thérèse de Blainville.
Tu écriras ça.
Salut. Merci. Moi, c'est déjà fait que c'est déjà réglé. Mais la boussole électorale ne m'a pas aidé cette année parce que mon idée était pratiquement faite. Mais si vous avez encore des doutes aujourd'hui, allez sur le site de Radio-Canada. La boussole électorale, c'est un bon outil pour vous dire avec quel parti vous auriez peut-être plus de ressemblance.
Oui, d'affinité politique, tiens.
Exactement.
Mais c'est malgré tout très difficile.
Ouais.
C'est toute qu'une pas campagne, cette campagne.
13h18, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. Marceau.